L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire enseigné par l'un de nos pasteurs. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Donc, la Bible nous dit dans Agé au chapitre 2 et au verset 8, « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc on va faire un petit rappel parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'on s'est vu la dernière fois. Et il faut que vraiment dans nos vies puissent s'établir des convictions par rapport à la parole de Dieu concernant les finances. Parce que si nous n'avons pas de convictions, ça créera en nous de la confusion selon les circonstances qui vont nous atteindre. Et c'est important que nous sachions quelle est la volonté de Dieu pour nos finances. Alors on en parle et c'est bien une série sur les finances, on apprend des choses, mais il faut que ça crée en nous quelque chose, parce que sinon on est comme celui qui se regarde hein, et qui oublie tout de suite son visage naturel après s'être regardé dans un miroir. Et il ne faut pas que ça puisse faire ça, mais que ça crée de véritables convictions en nous par rapport à la parole de Dieu, des fondations par rapport à la volonté de Dieu pour nos vies. Alors nous connaissons la volonté de Dieu, ce que Dieu désire pour nos finances. Nous savons que Dieu est bon, nous savons que Dieu est un bon Père Céleste, qu'il veut prendre soin de nous. Et en fait, Dieu veut répondre à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Donc Dieu n'est pas celui qui retient la bénédiction, mais au contraire, il veut la déverser dans nos vies. Et si on change nos façons de penser, si on change nos mentalités, par rapport à comment on regarde l'argent, par rapport à notre vie sur la terre, par rapport à nos déclarations, à ce qu'on va dire avec notre bouche, alors c'est clair et net que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il faut vraiment marcher par la foi, il faut s'asseoir sur la parole de Dieu et agir sur cette parole, parce qu'elle est puissante, elle est capable de transformer toutes les situations. Alors oui, Dieu est le propriétaire de l'argent, nous sommes des gestionnaires et dans le monde dans lequel on vit et toute notre vie, on va constamment utiliser de l'argent. Certainement, qui n'a pas utilisé d'argent aujourd'hui? Qui n'a pas fait une dépense aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui n'a pas fait une dépense aujourd'hui? T'as pas fait une dépense? T'as pas fait une dépense? Vous êtes venu en voiture? Ok, donc vous avez fait une dépense. En fait, on utilise tout le temps de l'argent. Et donc c'est clair que Dieu a quelque chose à dire là-dedans par rapport à l'argent. Et il faut qu'on puisse utiliser l'argent avec sagesse, avec intelligence. Et Dieu, on sait combien dans ce monde l'argent a une puissance. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont des gens qui ont une puissance. On voit certains États dans le monde, entre autres les États islamiques qui possèdent beaucoup de pétrole. À cause de ce pétrole, aujourd'hui, ils sont en train de racheter énormément de choses dans le monde. Ils rachètent parfois même des régions entières. Il y a certains pays en ce moment qui sont en train de se faire racheter. Il y a des radios, des télévisions, des clubs de soccer professionnels qui sont rachetés par des gens comme ça qui possèdent beaucoup d'argent. Et on sait bien sûr toutes les histoires de pots de vin, les choses au niveau de la politique, combien de fois des gens ont été mis à un pouvoir à cause de l'argent. Plus on a d'argent et plus on peut faire de la communication. Donc l'argent a un énorme pouvoir. Et quand il est dans de mauvaises mains, on l'a vu, bien sûr, ça va produire de mauvaises choses. Mais quand il est entre la main de quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui a un bon cœur, ça peut bien sûr produire des choses extraordinaires et merveilleuses pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que Dieu désire pour nous. Dieu veut nous rendre prospères. Alors je ne dirais pas que Dieu veut nous rendre millionnaires, parce qu'on a vu que la prospérité, ce n'est pas une histoire d'argent seulement, mais par contre Dieu veut répondre effectivement à tous nos besoins et qu'on soit tellement en abondance qu'on peut répondre à toutes sortes d'œuvres bonnes. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu en nous. Il faut que ce soit des fondations dans nos vies importantes. C'est vraiment important et gloire à Dieu pour ceux qui peuvent entendre des messages sur les finances dès la jeunesse, parce que ça va leur éviter bien des problèmes, bien des situations difficiles dans lesquelles ils auraient pu ne jamais passer s'ils avaient été enseignés. Alors on sait que l'argent n'est pas la solution à tout, mais l'argent a une puissance. Et il ne faut jamais que l'argent nous empêche de servir Dieu, mais qu'au contraire, on puisse dire au Seigneur, quoi que ce soit qui se passe dans ma vie financière, je te servirai toute ma vie. Ça, c'est des décisions vraiment puissantes qu'on a à prendre un jour dans notre vie. où on a des problèmes financiers qui arrivent. Et là, dans le désert, on avait expliqué que le désert va manifester ce qui est dans notre cœur. Et on va avoir des attitudes, certaines attitudes qu'on va avoir. Et c'est des choix qu'on va faire par rapport à Dieu aussi, où Dieu va regarder qu'est-ce qui est dans notre cœur à ce moment-là. Et dans l'épreuve, dans le désert, dans le manque financier, les gens vont soit se retourner contre Dieu, soit se détourner de Dieu, ou au contraire vont se rapprocher de Dieu. Et ces trois types de réactions qu'on peut avoir dans l'épreuve. Et bien sûr, ce que Dieu désire, c'est qu'on puisse se rapprocher de lui dans l'épreuve et lui faire confiance. Donc il y a différentes choses par rapport à la bénédiction financière, bien sûr, qui peuvent éloigner la bénédiction dans nos vies. On avait parlé des inquiétudes, on avait parlé de l'amour de l'argent, on avait parlé de l'orgueil, de l'égoïsme, des convoitises, des dettes. On a parlé entre autres de faire un budget, la malhonnêteté, la mentalité de pauvreté, la radinerie, la mauvaise confession. Tout ça, c'est autant de facteurs dans nos vies que plus elles sont présentes dans nos vies et plus la bénédiction va s'éloigner de nous. Et au contraire, on a vu qu'il y avait des amis de la prospérité. Jésus dit qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, ce n'est pas « bien, vous êtes pauvres, alors soyez patients parce qu'un jour vous allez mourir et tout ira bien ». Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est fait pauvre pour nous afin qu'on soit enrichi. Et ce n'est pas seulement spirituellement, c'est dans tous les domaines de nos vies. Dieu n'a rien oublié, Dieu n'a rien laissé au hasard, mais vraiment, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et Jésus était en train de dire à ces pauvres-là, grâce au royaume de Dieu, à l'établissement du royaume de Dieu, grâce à la bonne nouvelle, grâce à ma vie donnée pour vous, votre vie financière peut être transformée si vous mettez votre foi en moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la bonne confession, bien sûr, la Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, c'est important de faire attention. Et ça, c'est toute une éducation qui prend du temps. Mais il faut savoir éduquer notre langue. Chacun dira que de la langue, ça peut... Regardez comme un petit feu peut embraser toute une forêt. Et de ce que nous disons, les simples paroles, nos paroles sont des semences et ça peut embraser tout le cours de notre vie. Donc c'est vraiment important, mais bien sûr, on peut faire attention à nos paroles en se disant « oui, il faut faire attention à nos paroles ». Mais si ça ne vient pas de profonde conviction, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc ça reviendra. Et c'est pour ça que c'est important d'aller pas seulement en surface, mais d'aller dans la profondeur. Si on dit des choses, par exemple, si on dit des paroles négatives au niveau des finances, si on commence à déclarer des paroles d'inquiétude, des paroles de crainte, ça montre qu'il y a un problème dans notre cœur par rapport à Dieu, par rapport à la compréhension de sa parole et peut-être parfois par rapport à notre foi. Et là, c'est important, quand on s'entend dire des choses, le Saint-Esprit souvent va nous dire « écoute ce que tu viens de dire », on va sentir dans notre témoignage intérieur « il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne vient pas de ma nature spirituelle ». Et là, c'est important de se dire « tiens, si j'ai dit ça, c'est qu'il y a quelque chose en moi, une fondation qui n'est pas bonne et je devrais peut-être travailler là-dessus. » Et ça, c'est vraiment important. Donc, notre confession, c'est vraiment important au niveau financier parce que les pressions, ça fait quoi ? Ça fait ressortir le jus. Et dans les pressions, si on a toujours une bonne confession dans les pressions, alors là, gloire à Dieu parce que ça va faire sortir le meilleur. Mais si dans les pressions qu'on a dans la vie, on vomit, ça ne va pas amener quelque chose de bon dans nos vies financières. Donc, c'est important. On a parlé des semences. Alors là, on a vu plusieurs semences. On a bien sûr parlé de la dîme. On a vu qu'il y avait plusieurs façons de donner la dîme. Soit c'est un acte religieux pour nous, c'est le paiement d'une taxe, ou alors c'est un acte d'obéissance. Et si on a vu, c'est bien, mais encore mieux, c'est la loi de l'amour. Je donne au Seigneur, je donne pour le royaume de Dieu parce que j'aime vraiment Dieu. On a vu que la dîme, c'était une loi de protection. Ça consacre le reste de toutes nos finances. La dîme se donne avant toute chose. On a parlé des offrandes et on a vu qu'il y avait bien des cas dans la parole de Dieu où Dieu nous demande de soutenir des gens. Donc on en a cité plusieurs, on avait vu les parents, les ministères, les enseignants, les veuves, les orphelins, les pauvres, etc. Donc différents types de personnes. On avait donné des règles par rapport à la façon dont on doit donner les offrandes, parce qu'on ne donne pas les offrandes n'importe comment. Comment gérer le superflu, les vœux qu'on fait à Dieu, les motivations du receveur, l'obéissance. Et on était dans la dernière réunion, c'était connaître et respecter les saisons. Alors connaître et respecter les saisons, il y a des saisons financières dans nos vies et c'est important de les connaître, c'est important de savoir dans quelle saison financière on est. J'ai fait une pensée là-dessus sur les saisons financières dans nos vies. Et il y a quelqu'un qui n'était pas contente, qui disait « Ah oui, maintenant l'apôtre Paul a vécu dans la pauvreté parfois, dans la richesse. » Et c'est sûr qu'en 3 minutes de pensée, on ne peut pas tout dire. Donc la personne n'a pas vraiment compris. Et souvent, parfois, les gens, quand on parle de prospérité ou de bénédiction dans nos finances, ils se sentent jugés. Et la parole n'est pas là pour nous juger, la parole est là pour nous aider à sortir de nos situations. Mais parfois, il y a des gens qui ne veulent pas en sortir. Donc il y a des saisons dans nos vies. Et quel que soit, on l'avait dit, le pays où on se trouve, l'endroit où on se trouve, la situation dans laquelle on est, la parole de Dieu fonctionne partout. Donc cette parole, si on la met en pratique, elle fonctionnera pour le blanc, pour le noir, pour le jaune, pour le français, pour le québécois, pour l'ivoirien, pour le vieux, pour le jeune. Donc peu importe la situation, pour le directeur d'entreprise ou pour l'employé, la parole de Dieu fonctionne. Et on devra avoir le plus tôt possible une vision claire de ce que nous souhaitons pour notre vie financière. C'est important, il faut qu'on sache c'est quoi, qu'est-ce que je veux au niveau de mes finances. Parce que la majorité des gens, en tout cas une bonne partie des gens, ils n'ont pas de vision par rapport aux finances. Ils sont là, il y a de l'argent, l'argent vient, l'argent part, l'argent vient, l'argent part. Mais à part les gens qui convoitent et qui se disent « Ah, j'aimerais devenir riche », ils n'ont pas vraiment de vision claire de leurs finances. Et c'est dommage parce que les visions nous aident à se mettre dans la foi et à se donner des objectifs de foi, c'est important. Sinon, si on n'a pas de vision claire par rapport à nos finances, on va être dirigé par les circonstances. Vous savez, c'est un peu... dans mon travail, enseigne-moi, pendant des années, j'ai fonctionné avec mes mails. Et c'est mes mails qui dirigeaient mes journées. Donc si 50 personnes m'envoyaient une question, c'était ça que je faisais dans ma journée. Et après, on a établi un autre principe qui est bien, bien meilleur. C'est un outil de tâche, où là, c'est toi-même qui dirige tes propres tâches. Et ce que les gens vont te donner, c'est toi qui vas les insérer dans tes tâches que tu vas faire tel ou tel jour. Et tu n'es pas en fait en train d'être dirigé par les circonstances, d'être dirigé par les mails, etc. Et souvent, les gens sont comme ça. Ils sont dirigés, par exemple, par rapport à la prière. On peut voir que les gens aujourd'hui ne prient plus pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dirigés par les circonstances. Donc, ils se disent « Ah oui, mais je n'ai pas le temps de prier. » Non, tu as le temps de prier, mais par contre, tu es dirigé par les circonstances. Et pour toi, la prière, ce n'est pas une priorité. Il y a des gens très, très occupés qui ont le temps de prier. Et d'ailleurs, c'était le cas de Jésus. Il était extrêmement occupé, mais il avait le temps de passer une nuit en prière parfois, et il avait le temps de prier. Donc ça c'est important de ne pas être dirigé par les circonstances, et si on n'a pas de vision claire, on sera de toute façon dirigé par les circonstances. Donc premier stade, on avait expliqué que c'était le stade de l'enfance. Dans ce stade-là, on ne fait pas d'achat, en fait on vit aux dépens des autres, c'est les autres qui pourvoient à nos besoins. Donc ça peut être la famille, ça peut être les parents, bien sûr, ça peut être le gouvernement, ça peut être, il y a certaines familles dans le monde où il y a une personne qui travaille et les 20 autres, ils ne travaillent pas. Donc ça, c'est des choses qui sont là. L'un des dangers de cette première phase, bien sûr, c'est de rester toute la vie dans cette phase parce que c'est pratique, c'est les autres qui pourvoient, c'est les autres qui travaillent et nous, on a simplement à profiter des autres. Donc ça, il y a des gens qui aiment bien rester là-dedans. Ça c'est le premier stade. Deuxième stade, c'était le stade de l'adolescence, et on a vu que c'était une phase de découverte. Bien sûr, on découvre ce que c'est l'argent, on découvre ce que c'est d'avoir de l'argent dans nos mains, de l'argent qu'on a nous-mêmes gagné. Et là, ce que vont faire en général les adolescents ou les jeunes, et j'avais expliqué bien sûr les phases, c'est pas des phases d'âge, mais bien sûr on les reconnaît dans nos âges, mais c'est pas forcément des phases d'âge. Il y a des vieillards qui sont encore adolescents au niveau des finances. Mais donc c'est ça, c'est en général normalement les premiers travaux qu'on fait. Et ce que vont faire les jeunes en général quand ils travaillent, la plupart c'est qu'ils vont tout de suite tout dépenser. Ils en profitent, papa et maman ne sont pas là à me donner de l'argent, c'est mon argent et je fais ce que je veux. Donc ça c'est le stade de l'adolescence. Donc c'est l'apprentissage des finances et c'est des petits achats. Donc des petites gestions, un peu d'argent et c'est les petits achats. Et la Bible dit qu'on reconnaît le jeune homme, quelle sera sa vie future au travers de ses actions. Et là, il y a des gens qui, effectivement, vont manifester un certain type de caractère, certains traits de caractère par rapport à l'argent dès le début. Soit il y en a qui vont épargner parce qu'ils ont peur de perdre, parce que leur famille peut-être était dans des problèmes financiers, donc ils vont épargner à l'excès, ou d'autres, au contraire, qui vont en profiter au maximum, parce que c'est des gens dépensiers, et c'est ce qu'on voit souvent donc, dans la jeunesse. Alors, dans cette phase de l'adolescence, c'est justement là où on va pouvoir un peu sortir du lot et par nos traits de caractère, c'est important. Et là, on doit normalement créer une mentalité financière. On doit prendre des décisions par rapport aux finances dans cette phase de découverte et d'apprentissage des finances. Et en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de poser des fondations. Des fondations financières. Quelle va être ma vie financière? Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en la parole de Dieu? Est-ce que j'ai pris la décision que quoi qu'il arrive, je fais confiance en Dieu? Est-ce que j'ai pris la décision que quoi qu'il arrive, je prends la décision de toute façon que la parole de Dieu ne change pas? Je crois que Dieu pourvoit à tous mes besoins. C'est sa volonté parfaite. Et si ce n'est pas le cas dans ma vie, je ne mets pas la faute sur les autres, mais certainement j'ai quelque chose à changer. En tout cas, c'est toutes sortes de décisions qu'on prend. Et dans cette phase d'adolescence, on ne réussit jamais à faire de gros achats. Ce n'est pas possible, on n'en a pas la capacité, on n'en est pas rendu là. Alors les dangers de cette phase, c'est le manque d'ambition. Et c'est finalement, je peux rester entre guillemets hein, dans des petits boulots. Ça veut dire que je n'ai pas ce désir d'aller plus loin, je n'ai pas ce désir de gagner plus. Et ce n'est pas qu'on veut gagner plus, mais on veut être une plus grande source de bénédiction. Et certainement, plus on vieillit, en tout cas au niveau de l'adolescence, et plus on va avoir besoin d'argent. Parce qu'il y a des choses, on va devenir propriétaire d'une maison, par exemple. On va commencer à avoir une voiture, c'est des frais qui s'ajoutent. On a besoin donc de plus d'argent. L'illusion financière aussi, c'est un danger. Les gens pensent, j'ai entendu quelqu'un me dire, par exemple, c'est vraiment facile d'être riche. Un jeune qui me parlait, qui commence tout juste le travail, et il me dit, finalement, j'ai lu un livre sur comment être riche, et vraiment, c'est vraiment facile d'être riche. Bon, aujourd'hui, il n'est pas plus riche que quand il m'a parlé. Non, c'est pas facile. Donc ça, souvent, les jeunes, ils s'illusionnent parce qu'ils voient l'argent qui rentre, mais ils ne réalisent pas encore que l'argent sort aussi parfois facilement. Donc il y a d'autres dangers qu'on ne verra pas puisqu'on les avait déjà vus. Après, c'était le jeune adulte. Et là, c'est la phase de création des premières richesses. Donc, ce n'est pas un petit peu d'argent, mais c'est vraiment les premières richesses qui sont là. Et des premiers choix aussi. Et là, on va faire des moyens achats. Donc là encore, ce n'est pas une idée de l'âge, mais ça se voit bien sûr. Non. En fait, c'est que ces phases-là, ça devrait être ça la vie. Ça devrait fonctionner comme ça. Donc, les moyens achats, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être des achats comme ça. Ça peut être des investissements au niveau de nos études. On doit faire des achats, l'achat de cours, par exemple. Et là, dans cette phase, ce qu'on doit rechercher, c'est vraiment la sagesse de Dieu. On doit la rechercher, on doit l'acquérir, on doit la manifester. Il ne faut pas flamber. Là, il y a des gens qui flambent dans cette phase-là. Ils s'achètent grosses voitures, ils commencent à s'acheter les habits de marque, le dernier téléphone qui vient de sortir, le dernier truc. Et en fait, ils dépensent leur argent comme ça parce qu'ils veulent être reconnus par les gens. Et dans cette phase, au contraire, on ne devrait pas être en train de rechercher à être reconnu, mais on devrait rechercher l'humilité. Si on pose les bonnes fondations, c'est clair que la bénédiction de Dieu sera dans nos vies. Si on manifeste de l'orgueil, on l'avait dit, ça précède la chute. Et pendant cette phase-là, de jeune adulte, on devrait continuer à creuser les fondations spirituelles dans nos vies. Et l'apôtre Paul, par exemple, il disait « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, elle est utile à tout. » Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et donc, il faut continuer, pendant qu'il y a des finances qui augmentent dans nos vies, de ne pas oublier que, avant tout, on est un esprit et on a des choses à faire dans le royaume de Dieu. C'est bien de me trouver un travail et de vouloir réussir et de vouloir des promotions, etc. Mais je le fais pourquoi ? Je le fais pour qui ? Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce qui me motive ? Il y a des gens de plus en plus dans les églises dans le monde où on prêche sur les finances, on enseigne les finances. Et les gens commencent à être vraiment excités à vouloir prospérer à tout prix. Et souvent, c'est un peu l'excès. Les gens veulent prospérer à tout prix et ils oublient complètement que le Seigneur veut se servir d'eux. Le Seigneur veut les utiliser et finalement, ils prospèrent tellement qu'ils oublient complètement le Seigneur. Donc ça, c'est un des dangers de cette phase-là. Dans cette phase du jeune adulte, donc création des premières richesses, il faut épargner. C'est important d'épargner, de mettre de l'argent de côté. Donc on avait terminé sur cette phase-là. Et le stade donc numéro 4, c'est le stade de l'adulte. Donc, et c'est une phase d'établissement des finances. Donc dans cette phase d'établissement des finances, on va faire de gros achats. Donc ça peut être bien sûr l'exemple type, c'est une maison. Et dans cette phase-là, en fait, nos finances vont se positionner. Dans cette phase-là, on va s'établir, par exemple achat immobilier. Et dans cette phase-là, il ne faut pas oublier de semer. Parce que quand les dépenses augmentent, on aurait envie que nos sorties de nos propres choix diminue. Et là, quand les sorties augmentent, il y a des gens qui prennent le choix, comme je l'avais dit. Ils sèment, par exemple, dans un ou deux ou trois terrains. Là, il y a leur sortie qui augmente. Alors, tout de suite, ils vont enlever le premier terrain. Ils vont enlever leur... En fait, ils enlèvent toutes leurs semences. Et c'est dommage parce que certainement, ils sont arrivés là parce qu'ils ont semé. Et s'ils arrêtent de semer, comme on l'avait dit, hein, Pasteur me disait, Pasteur Fofi, quand je ferme ma main, je ne peux plus rien recevoir. Et quand je l'ouvre, par contre, je peux recevoir. Ça, c'est important. Et ça, dans toutes les phases, on devrait continuer à semer dans le royaume de Dieu. Alors, dans cette phase-là aussi, il faut continuer à épargner tout en faisant attention à ce que la mentalité de pauvreté ne revienne pas en nous si c'était notre cas. Parce que justement, on a des sorties qui arrivent, il y a une hypothèque, il y a des crédits peut-être, et on serait tenté de vouloir épargner au maximum et de revenir en fait dans cette mentalité de pauvreté. Ah, fais attention parce qu'il y a cette sortie-là, fais attention. En fait, finalement, on est entouré complètement de peur et de crainte parce qu'on ne veut pas tout perdre. Voilà, on vient d'acheter une maison, maintenant il faut faire attention. On vient d'acheter une voiture, maintenant il faut faire attention. Et finalement, ça devient un peu des craintes et des peurs, et il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est un des dangers de cette phase. Et c'est une période aussi dangereuse pour certaines personnes, celles qui ont des enfants, parce qu'il y a des gens comme ça qui vont se lancer à fond dans leur travail et qui délaissent complètement leurs enfants. Donc ils délaissent l'éducation de leurs enfants et ils mettent en péril en fait la vie spirituelle de leurs enfants, de leur famille, de leur couple et peut-être même parfois de leur couple parce qu'ils se donnent complètement dans les finances, dans le travail pour pouvoir avoir plus d'argent. Et on n'est pas né pour avoir de l'argent, on est né pour entrer dans la vision que Dieu avait pour nous. Et l'argent, on en a besoin, mais ce n'est pas ça la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est qu'on puisse le servir, c'est qu'on puisse être un bon mari, être une bonne épouse, être un bon père, une bonne mère, qu'on puisse être une source de bénédiction. Ça, c'est le but de Dieu. Ce que le Seigneur veut, ce n'est pas que, si on est par exemple constructeur de voitures, ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on construise des voitures. Ce que Dieu veut, c'est que là où il nous a placés, on puisse être une source de bénédiction pour des gens, pour peut-être des employés, pour une famille, dans notre église locale. Ça, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas l'argent. L'argent ça ne fait pas des miracles. Ça ne change pas le cœur des gens. Ça peut aider les gens, mais ce n'est pas ça le fond du cœur de Dieu. Donc, il faut faire attention à tout ce qui est les enfants, parce qu'il y a des gens qui commencent le travail à 5 heures du matin, qui arrivent à la maison à 19 heures le soir. Et comment tu veux, comme ça, éduquer tes enfants? Alors, c'est difficile. Certains font le choix que la maman reste à la maison. Donc déjà, c'est un très bon point. Dans ce cas-là, si les gens commencent tôt le travail et finissent tard le soir, mais une maman, ça ne remplacera jamais un papa. Et un papa, ça ne remplacera jamais non plus une maman. C'est clair que l'enfant a besoin des deux parents. Ça, c'est important. Bon, il y a des situations difficiles où la femme est abandonnée, où l'homme est abandonné, où là, bah, Dieu va prendre la place, entre guillemets, pendant un temps, peut-être jusqu'à la fin du père et de la mère. Mais quand même, ça crée des carences, ça crée des problèmes. Et c'est tellement important de faire attention à ça, à l'éducation des enfants. Alors là, je parle à vous, mais je parle à tous ceux qui sont contre cet enseignement. Il faut faire attention à ça. Et il ne faut pas oublier dans cette phase-là, bien sûr, de fonctionner avec des budgets et non pas au feeling. Parce qu'il y a des gens, ils réussissent, ils n'ont jamais vraiment fonctionné avec des budgets. Ils marchent selon le feeling. C'est-à-dire qu'ils ont réussi jusque-là. Ils se disent, de toute façon, je n'ai jamais fait de budget jusque-là. J'ai toujours réussi, j'achète ma maison, maintenant j'achète ma voiture. Et s'ils continuent à ne pas faire de budget, c'est un danger. C'est un danger qui est là en se disant, non, je vais continuer comme ça, au feeling, il va rien se passer. Mais là encore, si on achète des choses, il y a des choses qui peuvent casser, il y a des événements qui peuvent arriver, il peut arriver toutes sortes de choses. Donc c'est important de budgétiser, d'épargner, de continuer à semer dans le royaume de Dieu. Dans cette phase-là, on avait dit, par exemple, si on veut s'acheter une voiture, qu'on a 15 000 dollars d'épargne, si on s'achète une voiture à 14 900 dollars, ce n'est pas forcément la chose la plus sage. Vaut mieux avoir moins, bien, mais garder quelque chose à côté pour le mauvais jour. La Bible dit qu'il y aura le mauvais jour. Et il faut savoir tenir ferme dans le mauvais jour. Et dans le mauvais jour, ce n'est pas le jour où on va dire à Dieu, Seigneur, pourquoi ? Dieu nous dira, oui, mais il fallait peut-être épargner. Et il y a le cas de Joseph en Égypte, il est là, il y a 7 ans de famine qui sont là, et qu'est-ce qu'il va faire pendant les 7 ans avant la famine? Il va épargner. Et ça, ce n'est pas contre la foi, c'est simplement la sagesse. Et la sagesse et la foi, on avait dit que c'était de très bons amis. Aussi, une des choses que font les gens, et il y en a beaucoup de gens qui se font avoir comme ça, c'est que dans cette phase de positionnement, d'établissement, lorsque par exemple ils vont acheter une maison, s'ils ont la possibilité d'emprunter, je ne sais pas, 200 000 dollars et qu'ils doivent mettre 30 000 dollars d'apport, beaucoup de gens, s'ils ont 30 000 dollars d'économie, ils vont mettre les 30 000 dollars dedans. Et dès le début, en fait, ils sont complètement pris au niveau des finances. Ils n'ont plus rien pour même, certains, ça va jusque-là, les premiers frais, hein, les frais de notaire, certains frais qu'ils vont avoir, les frais d'aménagement, etc. Et on a déjà, à peine ils ont acheté, ils sont déjà fichus. Donc là, ils vont prendre un deuxième crédit, puis un troisième crédit, et voilà. Il y en a qui achètent et qui mettent tout leur argent dans le démarrage, et ils oublient qu'ils ont des meubles à acheter, que ceci, que cela. Et donc, c'est important de faire attention à ça. De ne pas mettre 100% de notre argent dans un crédit, dans le démarrage de l'achat d'une maison. En fait, il faut toujours avoir de l'argent de côté. Autant qu'on peut, il faut avoir une épargne à côté. Alors, il y a des gens qui disent... Oui, mais ce n'est pas possible, etc. Mais c'est toujours possible. J'ai été dans une église la semaine dernière et cette église, ils veulent s'acheter un bâtiment. Et une fois par mois, le dernier dimanche du mois, chaque personne de l'église donne 20 dollars à l'église en plus de sa dîme pour ce bâtiment. Et le pasteur, il disait, on fait ça depuis, je sais plus, un an et demi, je crois. Il dit, maintenant, on a 15 000 dollars de côté. Alors, dans X temps, ils auront l'argent pour pouvoir s'acheter ce bâtiment. Donc petit à petit, on peut avoir 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars qu'on met de côté. Donc c'est une phase d'établissement et ça ne doit en aucun cas devenir une phase d'appauvrissement. Il ne faut pas que ça devienne on s'appauvrit, mais au contraire, non, on continue à s'établir. Alors le stade numéro 5, c'est la phase, le stade de l'adulte mature. Ça c'est l'homme mature ou la femme mature. Et c'est une phase de l'accroissement des finances. Donc le stade 4, c'était l'établissement des finances, mais là, c'est l'accroissement des finances. Et dans ce stade, on va faire des investissements financiers. Alors là, beaucoup de gens n'entreront jamais là. Ils n'arriveront jamais dans ce stade numéro 5. Ils vont réussir à finir de payer leur maison à 50 ans, 55 ans, 60 ans ou parfois plus. Et ils n'auront parfois même pas le temps ou la vision même ou la pensée d'entrer dans des investissements financiers. Donc la Bible dit dans Genèse au chapitre 26 au verset 12. Genèse chapitre 26 verset 12. C'est cette histoire avec Isaac qui a semé en pleine famine pendant que tout le monde fuyait. Et c'est ce qui arrive dans certains pays pauvres ou certains pays en guerre où tout le monde fuit le pays. La Bible dit « Isaac fit des semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. » Je vous avais donné cet exemple d'un ami qui était footballeur et footballeur professionnel, c'était des gens qui gagnaient plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque mois. Et il disait que beaucoup de ses amis, en fait, étaient dans des crédits, dans des dettes, etc. Parce que, oui, ils s'enrichissaient de plus en plus, mais en fait, ils s'appauvrissaient de plus en plus. Et quand nos finances augmentent, il y a des gens comme ça, plus la vie avance et plus leurs finances augmentent, et ça devrait être le cas, c'est important de ne pas, comme on l'a dit, dépenser plus. Parce qu'il y a on a tous un niveau de vie financière. Il y en a qui vont acheter le riz à 1 dollar, il y en a qui vont l'acheter à 2 dollars, et il y en a, on ne sait pas pourquoi, ils vont l'acheter à 5 dollars. Parce que, voilà, on connaît tous, hein. C'est pareil avec les... Vous prenez des boissons gazeuses, hein. il y a le cola et il y a le coca. Ça n'a pas le même prix, et ça n'a pas le même goût non plus. La Bible dit aussi dans Genèse au chapitre 13, au verset 2, « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Alors ça, c'est une bonne chose. La Bible dit que c'est Dieu qui avait rendu ces hommes riches. Donc ça, c'est en fait simplement une phase de l'accroissement des finances. Ça peut être de diverses formes. Hein. Ça peut être en tant qu'employé, on a des promotions. Ça peut être on est gérant d'une entreprise et là, il y a une croissance qui se fait. Ça peut être parce qu'on avait déjà fait quelques petits investissements. Parfois, il y a un héritage qui tombe et bien sûr, il y a un accroissement des finances. Et là, c'est important de faire des investissements financiers. Et là, ça demande de la sagesse, ça demande de la direction divine, ça demande de fonctionner avec notre intuition, de ressentir les choses. Vous vous rappelez, l'intuition, hein, c'est comme un radar. On est là et on perçoit les choses. Soit c'est des bonnes choses, soit c'est des mauvaises choses. Il y a des investissements qui sont bons à faire, il y en a qui sont mauvais. Dans cette phase-là, où nos finances augmentent, notre argent ne doit pas rester sans rien faire. Et dans Matthieu, au chapitre 25, au verset 15, Jésus va donner cette parabole. Matthieu 25, verset 15, c'est la parabole des talents. Et bien sûr, ça va parler de notre service pour Dieu, mais ça parle aussi des finances. Alors, dans Matthieu 25, verset 15, on peut lire au verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents, donc c'est de l'argent, à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité ou selon sa force, et il partit en voyage. » Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il investit. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, on connaît cette histoire, c'est deux façons de penser, deux façons d'agir avec l'argent. Il y en a deux qui vont faire fructifier leur argent et l'investir et en gagner deux fois plus. Et il y en a un qui va prendre cet argent-là et qui va le cacher. Et le maître va lui dire, mais tu aurais au moins pu mettre cet argent chez un banquier et ça t'aurait rapporté de l'intérêt. Je crois que c'est monsieur Ikea, en tout cas le directeur de Ikea, celui qui a créé les Ikea un peu partout dans le monde, si mes souvenirs sont bons. Quand il était enfant, il a commencé à vendre des allumettes à l'unité. Et aujourd'hui, il est multimilliardaire. Donc, il y a des gens comme ça qui fonctionnent dans des... Il ne faut pas mépriser les petits commencements. Si on fonctionne par la foi et qu'on a une vision claire et qu'on croit Dieu, bah, on peut devenir riche avec des petites allumettes. C'est des choses qui sont possibles. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est bah, soit on peut mettre notre argent nulle part, c'est-à-dire on va le dépenser, soit on va le mettre dans des banques. Alors, et les banques, ça a bien sûr des limites, ça a parfois même des dangers, mais il y a certains comptes qui existent où on peut avoir de l'argent avec des intérêts, ça peut être bien. Ou soit il existe toutes sortes aussi de moyens d'investir, ça peut être d'investir dans des entreprises. Il y a des entreprises qui commencent et on peut avoir une part dans cette entreprise-là, ça peut être bon, ça peut être quelque chose qui se fait. Ça se fait beaucoup dans certains pays, entre autres en Afrique, où il y a beaucoup de compagnies, d'entreprises qui sont créées. On peut investir assez facilement parfois, et ça peut rapporter parfois aussi assez rapidement. Donc il y a des choses comme ça qui se font, et je connais plusieurs personnes comme ça, entre autres en Afrique, qui ont réussi à devenir très très prospères assez rapidement, parce qu'il y avait un besoin, il y avait quelque chose à construire, et ça fonctionnait pour eux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que notre argent, si on a beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils le laissent sur leur compte chèque et ça ne produit rien. Ça, c'est dommage. On devrait réfléchir et demander au Seigneur, bah, où tu veux que j'investisse cet argent-là. On peut aider des frères. Parfois, il y a des églises même qui aident certaines personnes qui lancent des business quand elles ont les moyens. On peut aider, mais bien sûr, bon, faut vraiment être dirigé là-dedans. Mais en tout cas, on peut faire des investissements financiers. Et un des investissements qui est en général quand même sûr et solide, bien sûr, c'est des investissements immobiliers. Moi, par exemple, c'est ma vision pour ma vie financière. C'est très rapidement d'avoir des condos, des maisons et de pouvoir simplement augmenter comme ça, investir pour des finances. Et pour ça, que pour arriver à la phase numéro 6, on verra que c'est la phase des aigles d'or. Hein, je vous avais donné ouais, j'ai trouvé ça moi-même. c'est un beau nom. Donc c'est ça, investissement financier, comme j'ai dit, là, beaucoup de gens n'entreront jamais là-dedans parce que bah, ils ont pas été forcément dans les phases précédentes, ils n'ont pas épargné, ils ont fait certaines erreurs, etc. Ils n'ont pas semé, mais normalement on devrait arriver à ça. Là encore, dans cette phase d'investissement financier, on continue à être présent pour nos enfants, si on a des enfants, et on devrait être des exemples, devenir des exemples en fait, où les gens commencent à nous dire, mais pourquoi tu réussis toi ? Pourquoi tu réussis à investir ? Comment tu as réussi à faire ça ? Les gens viendront vous voir. que ce soit dans l'église, mais parfois des incroyants. Et là, ça peut être une superbe occasion d'annoncer l'évangile. Bah, tu sais, moi, je prie. Il y a quelqu'un comme ça qui prospérait alors que tout le monde était, toutes les entreprises étaient en train de s'écraser. Lui, il prospérait. C'était quelqu'un qui investissait comme ça et il disait aux gens, mais moi, quand on me propose quelque chose, je vais dans ma chambre et je prie. Et quand il y a le feu vert, j'investis. Quand il y a le feu rouge, même si ça paraît être bien, s'il y a un feu rouge dans mon cœur, je n'investisse pas. Et comme ça, il prospérait. Et la prière, bah, c'est, bien sûr, c'est quelque chose de bon et ça peut être un moyen de, d'annoncer l'évangile en disant, bah, voilà, j'ai une vie de prière et de partager la volonté de Dieu pour nos finances. Il y a un pasteur Pat là, qui est avec nous en ce moment, Patana Adboulom, pas Adboulom comme il a été dit, Adboulom. C'est vrai, quand il y a un nom comme ça, on aurait envie de dire Adboulom. Mais... Il expliquait que lui, il a, une des premières fois qu'il a entendu l'évangile, le prédicateur prêchait sur les finances. Et il a vu plein de gens se donner au Seigneur. C'était un message sur les finances. Donc c'est parfois étonnant. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parfois c'est étonnant. La parole, elle est vraiment puissante. On peut parler, ah oui, par rapport aux finances, c'est que, il y a des gens, ce qu'ils vont être, ils vont être attirés par... on sait qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Il y a des gens, ils sont attirés par l'argent. Et il faut leur montrer que dans la parole de Dieu, Dieu a une volonté par rapport à l'argent. Par contre, il faut sanctifier leur argent. Et il y a des gens qui perdent tout parce que bah, ils aimaient tellement l'argent. Il faut leur montrer, bah, voilà, Dieu avait une façon de faire dans la parole. Et cette façon de faire-là, bah, si tu l'appliques dans ta vie, si tu mets Dieu en priorité dans ta vie, si tu cherches son royaume et sa justice, bah, Dieu s'occupera de tout le reste. Ça peut être une façon d'annoncer l'évangile. Parfois, annoncer l'évangile, ce n'est pas seulement Jésus t'aime, c'est qu'il y a plein de choses dans la parole qui sont intéressantes et Dieu peut nous inspirer par rapport à ça. Il y a des gens, par exemple, des églises qui font des séminaires business pour les entreprises, pour les hommes d'affaires. Et il y a des gens comme ça qui gagnent beaucoup d'âme au Seigneur, des chefs d'entreprise, avec ce genre de séminaires. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, on continue donc, à bénir les autres et finalement, on va apporter un savoir aux gens. On va apporter un savoir, il y a des gens, on appelle ça les success stories, les gens qui ont réussi, ils racontent leur histoire. Mais on peut être une de ces personnes qui raconte comment on a pu prospérer, comment on en est arrivé là et comment on peut aujourd'hui être une source de bénédiction. Bah, c'est parce qu'on a fait un certain nombre de choses. La Bible dit par exemple que les femmes plus âgées soient un modèle pour les jeunes. Et dans l'église, bah, il devrait avoir des mamans comme ça, spirituellement, mais aussi dans tous les domaines. Et j'avoue que ça manque souvent dans les églises de femmes âgées ou d'hommes âgés qui prennent vraiment leur rôle de maman et leur rôle de papa. Et on devrait les voir dans les églises, ces gens-là. On devrait voir des gens qui sont âgés et qui puissent être vraiment un modèle pour les plus jeunes et qui puissent être une source de bénédiction pour eux, qui puissent les aider, qui puissent les, être encourageants et en fait avoir cette vision-là. Je suis une personne âgée. Et je réalise que la Bible me dit bah, d'être un modèle. Donc, régulièrement, je prie, Seigneur, comment je peux être une bénédiction pour les plus jeunes dans mon église? Comment je peux être une bénédiction pour les croyants que je rencontre? Et ça devrait être un désir dans nos cœurs de pouvoir être des modèles. La Bible dit d'être un modèle en toutes choses. Alors, les dangers de cette phase, c'est que, bien sûr, c'est une phase d'alliance. Donc, que ce soit des contrats financiers, que ce soit des investissements où on est plusieurs personnes, il y en a qui ont tout perdu parce qu'ils se sont associés avec les mauvaises personnes, que ce soit la bourse, parce qu'il y en a qui vont investir dans la bourse, ça fluctue. Alors ça peut être excellemment bien, mais ça peut être aussi terrible. Donc là, c'est toujours direction divine. Plus on va écouter notre nature spirituelle, et moins il nous arrivera d'erreurs. Donc c'est une phase d'alliance, et ça c'est un danger de cette phase, c'est qu'il faut faire attention à nos alliances. Il faut vraiment faire attention à nos alliances, ça c'est important. Ce n'est pas parce que c'est un chrétien, c'est un frère, et qu'il dit que Dieu lui a parlé, que je dois rentrer dans son truc. Il peut avoir eu 50 rêves, il peut me dire, j'ai eu 10 paroles prophétiques, je t'assure, ça va fonctionner, etc. Combien il y a de gens qui ont été là-dedans et ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il y a beau avoir des paroles prophétiques ou des rêves, mais ce n'est pas ça qui va nous amener dans nos rêves. C'est la sagesse, c'est toutes sortes de choses, c'est l'obéissance, c'est toutes sortes de choses. Un des dangers, bah, c'est de tout investir pour gagner plus vite et plus rapidement. On veut tout investir, on a 100 000 $, 150 000 $ qui sont là, et j'investis tout dans la bourse par exemple, je dis oh, c'est sûr ça va marcher, et là il y en a tout perdu. Vous savez, les systèmes boursiers, il peut avoir par exemple je sais pas, une entreprise qui fonctionne bien, tout le monde est en train de ça fonctionne bien, les gens se disent OK, on va mettre de l'argent là-dedans. Et il y a des entreprises milliardaires qui font augmenter le cours d'une certaine action, par exemple. Ils sont tellement riches qu'ils font tout augmenter. Et là, il y a plein de petits investisseurs qui investissent. Ils investissent des 50 000 dollars, des 100 000 dollars, des 200 000 dollars. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et l'entreprise, hop, et repart avec l'argent. Et les petits, bah, ils sont encore plus petits. Et les grands, ils sont encore plus grands. Il faut faire attention avec la bourse. Donc, il y a des gens, mais c'est pour ça que la Bible, entre autres, on avait vu des passages dans Proverbe qui dit que ceux qui acquièrent rapidement de l'argent, ils peuvent facilement perdre. C'est le cas des héritages. Hein. Il y a des gens, ils ont un héritage tout à coup. Waouh, super, maison, vacances, etc. Il ne reste plus rien. Donc, il faut faire attention. On peut aller dans Deutéronome au chapitre 8. Ça, c'est un autre danger. Alors, c'est un danger spirituel. Donc, dans cette phase d'accroissement des finances, d'investissement financier. Deutéronome au chapitre 8 et au verset 10. Alors, je vais lire... Pour vous, lorsque tu mangeras et te rassasiras, donc ça c'est le cas quand nos finances donc se sont accrues, quand il y a eu un accroissement des finances, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Oui, les bonnes choses, c'est Dieu qui nous les donne. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Beaucoup de gens dans leur vie, ils vivent que pour une chose, c'est pour la retraite. Et à la retraite, ils disent « moi, je profiterai de la vie ». Et on voit plusieurs retraités, ils sont là. Alors leur jardin, c'est sûr, c'est magnifique, c'est quasiment coupé au ciseau, mais ils font rien pour le Seigneur. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est un des dangers, d'oublier le Seigneur. « Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, c'est au pluriel, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi et que tout ce qui est à toi se multipliera, prends garde de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc là, quand on n'avait pas d'argent. « Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays de serpents brûlants, de scorpions, de la soif, donc toutes sortes de circonstances, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit, donc Dieu qui pourvoit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Donc ici, humilier, bien sûr, ce n'est pas l'humiliation humaine, c'est des temps de difficulté où on s'humilie sous la puissante main de Dieu et on trouve notre secours en lui, on trouve notre force en lui. En fait, Dieu devient notre source. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. » Ça, ça a été le cas de Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor dans d'autres traductions. Hein, qui est devenu quasiment comme un animal. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde pour les gens qui prospèrent financièrement. De ne pas oublier le Seigneur, et que Dieu dit finalement que toutes ces choses-là, ces richesses, c'est pour confirmer l'alliance qu'il a jurée avec nos pères. Et on sait qu'on est béni de la bénédiction d'Abraham. Donc l'argent, dans l'église, on l'a dit et répété, c'était tellement un sujet tabou, tellement voilà, la mentalité, il faut devenir pauvre, mais au contraire, c'est vraiment une bénédiction pour nous. C'est une bénédiction pour nos vies, et c'est surtout aussi un signe, et ça devrait être un signe pour plusieurs personnes, de la main de Dieu dans nos vies. Donc c'est un danger, bien sûr, c'est d'oublier le Seigneur. On est là et on profite de la vie. Voilà, mange, rassasie-toi, fais la fête et demain tu mourras. Non, ce n'est pas ça, au contraire, on devrait investir pour le royaume de Dieu et on devrait faire des investissements intelligents qui rapportent, alors peut-être pas tout de suite, mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être une source de bénédiction pour mon église. Ça va être une source de bénédiction pour peut-être mes parents, pour mes enfants, pour des gens qui sont dans le besoin. Et ça, en fait, c'est un peu penser plus que moi-même. Je pense plus loin. Si je pense juste moi-même, je vais penser, je vais payer ma maison, je vais payer ma voiture et je vais profiter de la vie. Si je pense aux autres, je vais peut-être faire ces trois choses-là, mais je vais épargner, je vais peut-être moins dépenser pour moi. Et ce qui va me permettre d'investir un jour ou l'autre pour le royaume. Ça, c'est bon. C'est une période dangereuse pour la vie spirituelle. Et il y a des gens, comme je vous avais donné l'exemple de cette femme, ils arrivaient à la retraite, elle était tellement investie dans son église locale, elle était tellement heureuse, épanouie, cette femme, elle aidait des femmes dans son église et tout. Et là, ils se sont dit, son mari a dit, ah non, on va profiter de la vie, on va choisir le meilleur endroit au monde où on va habiter. Ils ont choisi un endroit et finalement, ils étaient là, mais ils ne faisaient plus rien pour le Seigneur. Ils étaient juste à la plage, en train de profiter de la vie. Et en parlant avec cette femme quelques minutes, on était en vacances, nous, cette femme, en fait, elle était triste parce qu'elle était sur la terre en train de jouir du soleil et tout ça, mais sans accomplir la volonté de Dieu pour elle. Et être dans le plus beau endroit en n'accomplissant pas la volonté de Dieu pour nous, c'est la pire des choses qui soit. Vaut mieux être dans un endroit difficile et d'être agréable à Dieu, de plaire à Dieu, et ça vraiment, on est en train de prospérer au niveau céleste, au niveau des choses du Seigneur. Donc on ne doit pas vivre pour les choses de ce monde. La Bible dit dans Luc au chapitre 12 au verset 20, vous connaissez l'histoire de cet homme, il est là et qu'est-ce qu'il dit ? « À mon âme, tu as beaucoup de biens. » Donc il a amassé toutes ses choses dans son grenier et il dit, voilà, maintenant profite de la vie. Donc ça c'est dans Luc 12:20 et la Bible dit que Dieu va lui parler et va lui dire, mais insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Et il y a des gens comme ça, effectivement, qui toute leur vie vont travailler pour la retraite et l'année de la retraite, ils partent. C'est terrible. Donc ça, et ça peut être parfois vraiment, bon, des fois c'est des causes naturelles, mais parfois c'est simplement parce que c'était quelque chose d'impur et ils ont ouvert des portes à la malédiction en pensant constamment à eux. Donc ça, c'est la cinquième phase, phase d'investissement financier. Et je prie que dans les églises et dans le royaume de Dieu, il y ait de plus en plus de gens qui puissent investir. Que si dans cette ville, notre église par exemple, on avait 800 maisons, je pense que ça se reflèterait sur l'église. S'il y avait 100 personnes qui avaient chacun 5 maisons, ça devrait se voir normalement. Ça devrait se refléter. Et ça, c'est clair. Pasteur dit gloire. Amen. Alors, le stade numéro 6, donc, que j'ai appelé le stade des aigles d'or. Je ne sais plus comment ça s'appelle, du plagiat, c'est ça, ouais. Ça, c'est la phase de l'expansion. C'est une phase où nous récoltons beaucoup. C'est une phase donc d'expansion et de récolte financière. Là, dans cette phase-là, en fait, on est comme des aigles qui simplement, ils s'envolent au-dessus des circonstances. Ils sont en train de régner financièrement. Ils sont, peu importe, entre guillemets, ce qui arrive, de toute façon, ils sont tellement arrivés à un niveau que, quoi que ce soit qu'il arrive, ils ont tellement de garanties, tellement de choses, ils sont tellement bien installés un peu partout, tellement de fondations, que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils volent au-dessus des nuages. Je parlais avec un homme qui a été banquier, qui a accepté le Seigneur, et il a tout arrêté au bout d'un moment, mais cet homme-là, il a des choses un peu partout dans le monde. Ce n'est pas parce qu'il était banquier forcément, mais il a établi des fondations. Il y a un voisin de mon frère, là, le père d'un voisin de mon frère, où il habite en ce moment, là, il vient d'aménager. Ce monsieur-là, il dit, bah moi maintenant je ne travaille plus, mais j'ai 400 000 dollars par an qui rentrent sans que j'ai rien à faire. Ça, c'est la phase de l'expansion. C'est la phase de la récolte. C'est la phase de l'aigle d'or. Tu ne fais plus rien et l'argent rentre. Ça, c'est le verset hein, qui dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il y a des gens comme ça qui ne font rien et à chaque minute, il y a de l'argent qui rentre. Et ouais, ça, c'est la phase des aigles d'or. Donc, en fait, contrairement au monde, nos finances devraient augmenter comme jamais dans cette phase. Mais la réalité, c'est que les gens disent « Ah oui, je vis avec ma maigre retraite. » Et ce n'est pas la normalité. Et plus, c'est pour ça que je disais, plus on connaît jeune cet enseignement de la parole de Dieu, et plus bah, on devrait rentrer dans ces choses-là. Et arriver, quand on est plus vieux, bah, on est des aigles d'or. Et là, on est vraiment une bénédiction. Donc, contrairement au monde qui a cette mentalité, bah oui, bah de toute façon, quand je serai vieux, entre guillemets, je serai pauvre, ou il me restera presque plus rien, ou ça va vraiment être très difficile. Non, c'est ça, c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ce que Dieu nous dit dans sa parole. La Bible dit, il s'allait enrichissant de plus en plus. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est de gloire en gloire. Pas seulement spirituellement, parce que c'est aussi physiquement, parce que normalement, spirituellement, vraiment, je vais de gloire en gloire, ça devrait se voir aussi dans le physique. Donc, on ne devrait pas aller plus je vieillis et plus je diminue financièrement, mais au contraire, plus je vieillis et plus je devrais prospérer. Ça, c'est la pensée de Dieu pour nous. Donc, on devrait, c'est ça, nous envoler comme des aigles. Dans Genèse, au chapitre 24, au verset 35, Genèse 24, 35, ça, c'est le serviteur d'Abraham. Qui parlait d'Abraham, justement, et si mes souvenirs sont bons, on est donc, comme on l'a dit, béni de cette bénédiction d'Abraham, et encore plus en Jésus. Le serviteur va parler de son maître et il dit « L'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » Sarah, la femme de mon Seigneur, a dans sa vieillesse enfanté un fils à mon Seigneur. C'est à ce fils qu'il a donné tout ce qui lui appartient. Donc là, il va y avoir un relais qui va être fait. Donc la Bible dit « L'Éternel a grandement béni mon Seigneur ». Comment ? Il est devenu un homme important. Ce n'est pas écrit « L'Éternel a grandement béni mon Seigneur ». Il est devenu dans la ville un moins que rien. Il n'est pas dit « Il lui a donné beaucoup de dettes et beaucoup de difficultés dans sa maigre retraite ». Et de devoir demander à toutes sortes de personnes de l'argent, mais il est dit complètement le contraire. Non seulement Dieu l'a béni dans ses affaires, avec de l'argent, avec de l'or, avec des employés, mais en plus, il a aussi béni physiquement. Et il était tellement béni qu'il y a eu un relais qui a été fait avec son fils. Donc ça, il a parlé comme ça d'Abraham. Dans Hébreux, chapitre 11, au verset 21, là, ça nous parle de Jacob. Hébreux 11, 21. Hébreux chapitre 11, verset 21. Il est écrit « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Bon, ça, c'est vraiment l'image du relais. C'est l'image de quelqu'un qui part et qui laisse vraiment une bénédiction derrière lui. Et ça devrait être le cas au niveau financier. On devrait pouvoir un jour ou l'autre s'appuyer sur notre bâton et pouvoir laisser un héritage financier à nos enfants et même peut-être plus qu'à leurs enfants, à nos enfants. Je connaissais un couple comme ça de retraités. Ces gens-là, ils n'avaient pas d'enfants. Donc ils ont dit, nous, quand on va partir, ils avaient déjà fait tout ce qu'il fallait, tout notre argent va aller à notre église locale. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand ils sont partis, leur argent a permis à l'église de payer une grande partie de l'hypothèque de l'église. Et ça a été bien sûr une source de bénédiction. Dans cette phase-là d'expansion, on devrait semer plus que jamais. Dieu nous a fait prospérer, on est vraiment bénis financièrement. Et ça devrait être, dans toutes les phases, on sème. Mais dans celle-ci, bien sûr, plus que jamais, puisqu'on est en train de recevoir, par exemple, ce monsieur qui a 400 000 dollars, si c'était un enfant de Dieu, il pourrait les semer dans le royaume de Dieu. Il a déjà sa maison, il a déjà peut-être deux voitures, il a tout ce qu'il faut. Et je ne pense pas qu'il a besoin de 400 000 dollars pour vivre. Il reste encore, il a de quoi vivre et il pourrait être une énorme source de bénédiction. Dans Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19, c'est ce que Jésus va dire. Matthieu 6, 19. Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en fait, la Bible va nous montrer que l'argent qu'on sème dans le royaume de Dieu, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça, on est en train d'acquérir des richesses. S'il y a un autre passage aussi avec l'apôtre Paul qui nous dit ça, que quand je sème dans le royaume de Dieu, comme on l'a déjà dit, si je sème financièrement, je suis en train d'investir dans le royaume de Dieu. Donc on parlait de la phase d'investissement, mais à chaque fois que je sème dans le royaume de Dieu, avec un cœur pour le royaume de Dieu, la Bible dit que Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits. Donc, une chose est certaine, c'est que quand quelque chose sort de ma poche et rentre dans le royaume de Dieu, je peux donner par exemple à mon église ou pour une œuvre bonne, quand je donne à cette œuvre bonne, automatiquement si je le fais pour Dieu, eh bien, il y a bien quelqu'un qui reçoit. Et ce quelqu'un qui reçoit, c'est pas l'homme, c'est Dieu, parce qu'on l'a donné pour Dieu. Alors peut-être que l'homme reçoit l'argent, les dollars ou les euros, ou je sais quelle monnaie, mais c'est Dieu qui reçoit la puissance spirituelle qu'on est en train de donner ici, l'amour. Et automatiquement, on est en train d'acquérir au ciel des richesses. On est en train de s'amasser des richesses. Ce n'est pas une image, c'est vraiment quelque chose de réel. La Bible nous montre que Jésus va donner, par exemple, à l'un, il va donner la domination, entre guillemets, sur 10 villes. Bon, c'est des images qui sont là, mais il y a quand même une réalité. Il y aura une richesse, il y aura une gloire plus ou moins grande, il y aura, entre guillemets, des étoiles qui vont briller plus ou moins grandement. Donc, il ne faut jamais oublier le royaume de Dieu, parce que quand on est en train de semer pour le royaume de Dieu, on est en train de s'amasser, en fait, une provision céleste. On est en train d'épargner, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, les dangers de cette phase, là, c'est un peu la dernière phase, c'est que c'est de mourir en n'ayant laissé aucun héritage spirituel ni financier. Donc, nos finances, j'ai de l'argent qui rentre tellement et que ça part tout de suite, ou au contraire, je laisse aucun héritage spirituel. Donc, il y a des parents, par exemple, ils ont laissé beaucoup d'argent à leurs enfants, mais ils n'ont rien laissé spirituellement. C'était des chrétiens pourtant, mais leurs enfants ne les ont jamais vus être un modèle, ils ne les ont jamais vus prier, ils ne les ont jamais vus investis dans l'Église, dans le royaume de Dieu. Ils n'étaient jamais là pour les encourager au niveau du Seigneur. Ce n'étaient pas des modèles, ce n'étaient pas des pères pour eux, et ça, c'est vraiment dommage. De mourir avec beaucoup d'argent, en laissant beaucoup d'argent à ton enfant, mais sans lui avoir laissé un héritage spirituel, ça, c'est vraiment terrible. Donc ça, c'est un des dangers. Alors, un autre danger, c'est profiter pour s'acheter tout ce qu'on a rêvé, tout ce dont on a rêvé. Il y a des gens qui disent, vraiment, quand je serai riche, moi, je ferai ceci, je ferai cela. Ça, c'est un des dangers. Donc, on dépense tout. Comme si, en fait, il fallait profiter au maximum de la vie sur cette terre. Et en fait, c'est les gens qui pensent comme ça, c'est les gens qui pensent comme des incroyants, qui pensent qu'à la mort, c'est fini. Non, on n'est pas comme ça. Bien sûr, on sait qu'il y a quelque chose derrière. Autre danger, c'est de semer dans les mauvais terrains par manipulation. Alors, les riches, il y a des gens qui reniflent les riches. La Bible va montrer qu'il y a des gens qui sont là et qui vont chez les femmes chargées de péché, et en fait ils vont profiter de ces femmes. Et ça, c'est clair que dans toutes les églises, là où il y a des riches, la Bible dit que là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Je crois que c'est ça. Oui. Et autour des riches chrétiens, il y a des gens qui gravitent autour. Il y a des faux amis, il y a des profiteurs. Donc là, parfois, il y a des gens qui vont profiter des gens qui ont prospéré. Et le danger, c'est de se faire manipuler. C'est de se dire, ah non, mais si tu ne me donnes pas tant d'argent, voilà ce qui va se passer. Et c'est de, en tout cas, avec toutes sortes de paroles, le Seigneur m'a dit. Il y a des gens qui se sont fait avoir comme ça, qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un des dangers. Mais en général, quand on arrive dans cette phase-là, quand même, on a acquis une certaine sagesse, ce qui fait qu'on peut éviter certains problèmes. Mais aussi, il y a certaines personnes, en vieillissant, ils perdent un peu la raison parfois, ils deviennent émotionnels et ils peuvent un peu se faire avoir. Certaines personnes, par exemple, vont perdre leur femme ou vont perdre leur époux, et émotionnellement, ils peuvent être parfois, pendant un temps, un peu plus faibles s'ils ne trouvent pas leur force dans le Seigneur. Et là, il peut y avoir des manipulateurs, peut-être un nouvel époux ou une nouvelle épouse, plus jeune, par exemple, et qui a des dents longues. Donc ça peut être un danger. Oh, Seigneur, tu m'envoies cette personne. Non, ce n'est pas le Seigneur qui te l'envoie, c'est quelqu'un d'autre. Et là, il y en a qui se font avoir, donc c'est dangereux. Un autre danger, c'est de partir plus tôt que prévu, sans avoir préparé la suite. Donc dans cette phase-là, il faut préparer la suite. C'est une phase de relais. Et si on ne prépare pas la suite, on va comme ça partir, et sans avoir préparé les choses. Et vous savez que les gouvernements, ils sont très forts pour prendre l'argent que vous avez acquis. Les gouvernements sont forts pour ça. Et si on ne prépare pas les choses, ça peut aller à des gens et être utilisé par des gens, même des ennemis de l'Évangile. Donc je ne dis pas que c'est le cas des gouvernements, toujours, mais en tout cas, il faut faire attention. Donc il faut bien prévoir la suite et il faut un relais. Alors si je suis chef d'entreprise ou si j'ai fait des investissements, et c'est le cas si je suis arrivé là, il faut un relais. Donc ça peut être mes enfants par exemple, mais ça peut être des gens aussi sur qui j'ai confiance, en qui j'ai confiance, sur qui je peux compter. Et ça c'est bon quand quelqu'un part et il a laissé un relais. voyez par exemple l'évangéliste Reinhard Bonnke, c'est un homme vraiment d'une grande sagesse, et dans son ministère, il est arrivé à un temps où il a vraiment laissé le relais à quelqu'un de plus jeune que lui. Et j'avais vraiment aimé cette image. Sur son site internet, il y avait une bannière et on voyait le jeune homme devant et lui, il était un peu en retrait derrière. Et ça, ça voulait tout dire, c'est que voilà, il préparait un jeune à prendre la suite. Et dans tout ce qu'il fait, par une grande humilité d'ailleurs, il mettait en avant ce jeune-là. Et en fait, il prépare le relais. Alors, on peut le voir dans les ministères, mais ça pourrait être le cas aussi dans les entreprises. Si je ne prépare pas le relais, c'est dommage parce que ça va être repris par des gens. J'ai construit quelque chose de merveilleux, de vraiment pour la gloire de Dieu. Et finalement, tout est repris et c'est dommage. Faut voir plus loin. Alors pour... Non, j'allais dire pour terminer, mais il me reste quelques points encore. Juste aller dans 3 Jean, chapitre 2, verset 2, pardon. 3 Jean, verset 2. Juste pour parler un peu d'éduquer son âme, ça va être juste quelques points pour terminer cette série. Dans 3 Jean, verset 2. Donc, c'est Jean qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. » Donc, on le répète, notre prospérité financière, ce sera en fonction de notre prospérité mentale. Donc ça, c'est un peu ce verset-là, finalement un peu un résumé. Il n'y a pas de mystère. Ma prospérité est fonction de ce qui est dans ma tête et de ce qui est dans mon cœur, de ma foi. Donc c'est important. Si je veux que tout ce que j'ai entendu là, dans cette série puisse s'appliquer dans ma vie, il faut que je médite la parole de Dieu. Il faut que ça soit vraiment ancré en moi et je vais prospérer comme l'état de mon âme. Donc il faut accepter la doctrine de l'amour de Dieu parce qu'en fait, c'est sûr, les gens n'aiment pas le terme de doctrine de prospérité. On pourrait l'appeler simplement la doctrine de l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il peut pourvoir à nos besoins comme un bon père. On pourrait l'appeler comme ça. Donc c'est important d'éradiquer cette mentalité de pauvreté, important de faire des budgets, on avait vu, on a parlé de pas mal de choses, de s'ouvrir à celui qui pourvoit. Et un point dont je devais parler, c'est bien sûr le travail. Alors, le travail, dans Ecclésiaste, au chapitre 4, au verset 8. Ecclésiaste, chapitre 4, et au verset 8. C'est l'Ecclésiaste qui dit... Voilà un homme seul, sans personne d'autre. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin. Même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et prive mon âme de bonheur? C'est encore là une vanité et un souci malsain. Et en fait, là, bon, il parlait du fait d'avoir travaillé, etc. Là, c'était dans le danger de vouloir toujours s'enrichir. Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Ils travaillent pour s'enrichir. Et pas pour le royaume de Dieu. Le travail, mais bon, ici l'Ecclésiaste, il a travaillé. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a amené une prospérité. Par contre, comme il travaillait pour des désirs égoïstes, son travail n'a pas donné quelque chose de bon. Mais par contre, le travail, c'est quelque chose de bon. Il y a des gens qui disent « Ah, moi maintenant, j'appartiens au Seigneur, je vais vivre, entre guillemets, d'amour et d'eau fraîche. Je n'ai plus besoin de travailler. » Non, on a besoin de travailler. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre... 3, du verset 7 à 12, l'apôtre Paul va dire, je vais lire pour vous, 2 Thessaloniciens 3, verset 7 à 12, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, donc c'était des modèles, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. » Alors c'était quoi le désordre? Il le dit. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. » Donc ils travaillaient de leurs mains, ils travaillaient aussi pour le royaume de Dieu. Pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors ça, c'est drôle parce qu'en fait, il résume des prédications qu'il a faites et qu'ils ont faites. Donc qu'est-ce qu'ils prêchaient? Ils allaient dans des églises, et c'était le message qu'ils apportaient dans les églises, et peut-être que leur prédication, ils les auraient intitulées « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Et là, c'était des enseignements qu'ils apportaient sur le travail et sur le fait de travailler. Parce que bien sûr, les gens venaient d'accepter le Seigneur en foule, Et il se disait, ben, finalement, est-ce que c'est bien de travailler? Est-ce que je dois travailler maintenant? Est-ce que je dois travailler pour un patron qui ne connaît pas Dieu? En tout cas, il devait avoir toutes sortes de pensées. Et il leur disait, non, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ne vivez pas aux dépens des autres, ne restez pas donc un enfant. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Et là, je vous avais donné l'exemple d'un homme qui était venu dans une église que je connais et qui disait, ouais, bah, moi, je dois juste prier. Il vivait chez quelqu'un, il mangeait chez quelqu'un, et en fait, il ne voulait pas travailler. Et ça, ce n'est pas bon. Éphésiens 4, au verset 28, à propos du travail, parce que c'est aussi, bien sûr, une des clés de la bénédiction, et ce n'est pas la moindre. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est assez drôle, hein, c'est vraiment le changement de perspective de la vie. Je volais pour moi-même, et maintenant je travaille pour aider les autres. Donc c'est vraiment une autre pensée. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12, l'apôtre Paul dira encore, « Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. » Un autre passage, bon, je vous les cite, hein, mais vous pourrez les réentendre dans le message. Actes chapitre 18, verset 1, à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. On va aller au verset 3. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Donc ça, c'était le métier de l'apôtre Paul. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait des juifs et des grecs. Donc, on en a parlé de ce moment-là de sa vie, hein, où comme les gens ne pourvoyaient pas à ses besoins, bah, il était obligé de travailler. Donc, il travaillait la semaine difficilement. La nuit, j'imagine, le soir, il allait visiter des gens et prier pour eux, etc. Et le week-end, bah, il allait dans la synagogue et il partageait l'évangile. Et la Bible va nous montrer à un autre moment que quand il y a des gens qui sont venus pour voir à ses besoins, il s'est mis en entier pour l'évangile. Complètement, donc il n'avait plus besoin de fabriquer ses tentes. Alors ça c'était pour le travail, parce que j'essaie en parlant des finances d'aborder un peu tous les points, mais ça c'était quelque chose d'important à dire, c'est que bien sûr le travail c'est une fondation pour prospérer. Autre chose rapidement que je voulais voir aussi, bien sûr c'est l'honneur, on en a parlé plusieurs fois. Mais c'est un peu pour conclure la série, c'est que c'est important donc d'honorer Dieu. D'honorer Dieu dans nos finances. Il y a plusieurs façons d'honorer Dieu. On peut honorer Dieu, bien sûr, on a le dû avec la dîme, avec des offrandes. C'est important d'honorer la parole de Dieu, ce que nous dit la parole de Dieu, de le mettre en pratique. C'est important d'honorer les serviteurs de Dieu. Vous savez, quand vous honorez l'onction qui est sur un serviteur de Dieu, vous honorez le Seigneur. Et ce n'est pas un enseignement de manipulation, c'est quelque chose de réel, de véridique, qu'on peut voir dans la parole de Dieu à bien des reprises. Quand on bénit un ministère qui est oint vraiment par Dieu, il y a une bénédiction sur nous. Et j'ai rencontré des gens comme ça dans ma vie, des gens qui bénissaient, qui avaient compris ce principe-là. Quand je bénis le royaume de Dieu, quand je bénis des ministères qui vivent pour le Seigneur, quand je pourvois aux besoins des saints, il y a vraiment quelque chose qui vient sur moi. Il y a des gens, il y a plusieurs phases dans leur vie, plusieurs fois, où ils investissent dans le royaume de Dieu et Dieu les fait décoller, que ce soit dans leurs entreprises personnelles, ou dans leur compagnie. Dans 1 Samuel au chapitre 2, on voit qu'à un moment, Dieu va se fâcher auprès du prophète Élie parce que ses fils, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils prenaient toutes les offrandes, ils prenaient pour eux le meilleur et finalement, ils n'étaient pas en train d'honorer Dieu. Et Dieu va dire une parole vraiment puissante. Il leur dit, « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Donc si on méprise Dieu au niveau de nos finances, bah, y a un mépris qui va venir sur nous. Par contre, si on honore Dieu, et c'est ça la bonne nouvelle, il est clair et certain, Dieu va nous honorer. Dans Galates au chapitre 6, au verset 6, il y a ce même terme de mépris qui est utilisé. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous faites pas d'illusions, Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Donc là, c'est étonnant, mais c'est la même chose qu'on voit ici, ce mépris quand on est en train de recevoir de la parole de Dieu et qu'on n'est pas en train de bénir la parole. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme livré à lui-même récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Donc là, c'est les gens qui sèment financièrement juste pour leurs désirs égoïstes. Et bien sûr, ils ne vont rien récolter de surnaturel. Celui qui sème, par contre, pour l'esprit, moissonnera ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donc là, il y a vraiment des paroles sur lesquelles on peut méditer, on peut penser et on peut les pratiquer. Alors Job, à la fin de sa vie, on peut voir comment Dieu l'a béni. Et je voulais relire ces 2-3 versets qui nous en parlent, parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Au chapitre 42 de Job, au verset 10, la Bible dit « L'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tous ses frères, toutes ses sœurs et toutes ses connaissances d'autrefois vinrent vers lui, etc. Ils le consolèrent. Ils lui donnèrent chacun un anneau d'or. » Et là, au verset 12, « L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, plus que la première. » Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 1 000 ânes. Il eut 7 fils et 3 filles. Et il vécut après cela 140 ans. Et ça doit rester en nous. C'est vraiment, ça c'est le cœur de Dieu. On a vu le cœur de Satan qui voulait tout détruire sa vie à tous les niveaux. Et on voit le cœur de Dieu qui est là vraiment pour nous bénir. Je lisais tout à l'heure un passage d'un livre de Yoon Gi-cho. Et à un moment, il parlait d'un événement qui lui est arrivé plusieurs fois dans son église, où des gens sont venus dans son église et ils lui ont dit « Ah, pasteur Yoon Gi-cho », par exemple, il y a un monsieur qui est venu le voir et lui dire « Moi, j'ai été sauvé dans votre église, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans votre église, mais financièrement, c'est la catastrophe. Et si vous ne me donnez pas tant d'argent, alors je ne ferai plus jamais partie de votre église. » Vous savez, des fois, il y a des gens, les pasteurs voient des choses un peu bizarres. Et il dit que plusieurs fois, il y a des gens qui sont venus le voir. Par exemple, il y a une femme qui est venue le voir et qui lui dit « Moi, on est quasiment à la rue avec mon mari, on a tout perdu. Et si vous ne me donnez pas tant d'argent, je ferai ceci, je ferai cela. Je me suiciderai », la femme lui avait dit. Il y a des gens, plusieurs personnes qui sont venues le voir comme ça et lui disant « Si vous ne me donnez pas tant d'argent, je vais me suicider. » Alors, bien sûr, il y a manipulation et tout. Et lui, il disait « Quand j'entends ce genre de choses-là, je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer. » Et qu'est-ce qu'il enseignait dans ce petit chapitre? Je suis tombé dessus, entre guillemets, par hasard tout à l'heure. Il enseignait que ces gens-là, le message qu'il leur donne, il dit « C'est difficile pour un pasteur de le faire, mais si je veux parler avec vérité, je leur dis « Le peu que vous avez, semez-le dans le royaume de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. » Et il y a des gens qui disent « Non, mais j'ai rien. » Et il leur disait « Mais vous avez quelque chose. » Ne serait-ce le petit peu que vous avez, semez-le dans le royaume de Dieu, mettez Dieu à l'épreuve. Donnez votre dîme. N'abandonnez pas, ne vous laissez pas gagner par le découragement, continuez à semer dans le royaume de Dieu. Alors humainement, ça paraît fou, bien sûr, mais quand on met Dieu à l'épreuve, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, c'est un peu la conclusion de cette série. C'est bien sûr l'important, les finances, la prospérité, c'est pour semer dans le royaume de Dieu. Dieu pourvoira nos besoins, nous le savons, il est bon pour nous. Et ce qu'il veut, c'est qu'on sème dans son royaume. Et Luc 6, 38 dit « Donnez, il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, secouée et qui déborde, serrée, car on mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Donc ça, c'est bon, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on donne et il veut qu'on récolte. Et dans tout ça, dans toute cette série qu'on a vue, l'important, c'est vraiment d'obéir à la parole de Dieu. Ouais, si vous voulez prier avec moi pour les internautes, tous ceux qui vont écouter, après on va prier pour ceux qui sont présents. Seigneur, je te remercie pour ta parole et je veux prier, Père, particulièrement pour toutes les personnes qui ont entendu cette série d'enseignements, que ce soit sur Internet ou que ce soit à la radio, que ce soit sur CD ou quel que soit le moyen. Je prie, Père, pour cette personne qui m'écoute maintenant et je proclame sur elle ta bénédiction. Je déclare que tu es un bon Père céleste selon ta parole et quelle que soit sa situation financière, quelles que soient les circonstances difficiles qu'elle vit en ce moment, présentement, je te remercie parce que tu es le Dieu des miracles. Et si elle met ta parole en pratique, tu es derrière cette parole. Et là où tu vois l'obéissance, là où tu vois l'honneur pour ton royaume, l'honneur pour ton nom, tu l'as dit dans ta parole, tu honoreras celui qui t'honore. Alors je veux proclamer, Père, ta bénédiction financière. Merci Seigneur Jésus parce que tu t'es fait pauvre afin qu'on soit enrichi, non seulement spirituellement, mais aussi financièrement. Et je te remercie des miracles qui vont arriver dans la vie de plusieurs personnes. Je te remercie de cette bénédiction qui coule et qui va couler jour à jour dans nos vies. Merci parce que Père, au travers des miracles, tu nous fais sortir la tête de l'eau, tu nous relèves, mais au travers de la bénédiction, c'est chaque jour ta bénédiction qui coule dans nos vies comme une rivière. Et je proclame cette bénédiction financière dans la vie des personnes qui m'écoutent. Je te remercie pour les bons travails, pour les bons postes que tu réserves pour tes enfants. Je parle et je proclame la promotion. Promotion dans les travails, promotion financière, promotion dans les investissements, sagesse et intelligence spirituelle. Je prie, Père, vraiment que tu donnes à ton peuple une sagesse et une intelligence spirituelle, qu'ils puissent reconnaître leur témoignage intérieur, qu'ils puissent être sensibles à ce que tu mets dans leur cœur. Je prie qu'ils puissent être écartés, Seigneur, des mauvaises associations, des mauvais investissements, des manipulateurs, des faux ouvriers, des faux enseignants, des faux ministères ou des mauvaises personnes qui seraient là pour leur faire perdre de l'argent. Tu es un bon Père, tu ne veux pas la crise, mais tu veux pourvoir à nos besoins, selon ta richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Tellement pourvoir que nous ayons assez pour toute bonne œuvre, pour nos propres besoins, mais aussi pour bénir ton royaume. Et Père, je te remercie. Je parle la prospérité. Je parle la bénédiction financière sur ton peuple. Merci pour les miracles qui arrivent dans les prochains jours, pour ta bénédiction qui s'étend, pour ta bénédiction dans les pensées, ta parole qui devient une fondation dans le cœur de ton peuple, dans les mentalités. Oui, Père, nous avons renversé toute hauteur, toute pensée, toute forteresse qui s'est élevée contre la connaissance de Jésus-Christ. Nous avons renversé ce faux raisonnement, cette fausse doctrine qui consiste à croire que nous allons dans cette vie avoir et passer constamment par des temps difficiles. Cette doctrine qui dit que tu ne t'intéresses pas à nos finances. Non, Père, nous croyons que tu t'intéresses à nous. Tu t'intéresses à nos finances. Et c'est toi qui mets dans la main du semeur de quoi semer. Père, merci. Merci pour ta sagesse qui dépasse celle des hommes. Merci pour ton intelligence qui dépasse celle des hommes. Merci pour ton amour qui dépasse celui des hommes. Nous savons que tu es bon. Nous savons que tu es bon pour nous et que tu seras encore bon aujourd'hui et demain. Merci, Père, pour des couples qui marchent ensemble en unité par rapport aux finances, en unité par rapport à ton royaume, pour des familles qui sont bénies financièrement et qui sont une source de bénédiction, pour des hommes et des femmes qui se lèvent et qui deviennent un grand témoignage pour plusieurs, une source de bénédiction, une source d'édification, des modèles pour les finances, pour ton peuple. Merci pour des églises qui prospèrent, pour des œuvres, Père, que tu crées et que tu fais prospérer. Merci, Père, parce que tous ceux qui se mettent à part pour ton royaume, qui se consacrent et qui consacrent leurs finances pour toi, tu les bénis encore plus. Merci pour ta protection qui demeure sur nous, alors que nous bénissons ton œuvre. Père, on veut te remercier. Merci pour ton amour, merci pour ta parole. Surtout, merci, Saint-Esprit, parce que tu es présent avec nous. Et c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi qui nous révèles ta parole. Saint-Esprit, merci de prendre la place dans nos vies et de prendre le contrôle de nos vies et de nos pensées. Prends le contrôle de nos finances et de nos décisions. Sois le premier, Père. On veut te donner cette place de premier dans nos vies. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.